Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'accueillir Philippe Appelois. Merci Philippe d'avoir accepté l'invitation de la librairie.
Bonsoir.
Je vais vous présenter en quelques lignes. Vous êtes graphiste, né en 62 en région parisienne où vous avez passé toute votre enfance. Vous avez étudié à l'école supérieure des arts appliqués du Perret où vous initiez à la typographie. Vous êtes reçu ensuite à l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Les années 80 ont été décisives dans l'orientation de votre parcours. Vous effectuez deux stages à Amsterdam dans le studio Total Design. Vous travaillez comme graphiste pour le musée d'Orsay, où vous poursuivez le travail de Bruno Munguzi et Jean Widmer. Vous y créerez notamment une affiche pour une exposition sur la ville de Chicago qui deviendra emblématique. Vous finissez les années 80 en partant pour Los Angeles et collaborez avec April Greiman, puis revenez à Paris pour créer votre propre studio. En 2000, vous écrivez chez Lars Müller une petite monographie, Au cœur du mot, qui est maintenant épuisée. En 2013, une exposition rétrospective vous est consacrée au musée des arts décoratifs, Typorama, qui fait l'objet d'un catalogue édité chez Thames & Hudson. On peut y voir vos multiples créations, majoritairement pour des organismes culturels, logos des musées de France, logo du Louvre d'Abu Dhabi, ainsi que sa signalétique, de nombreuses affiches pour des spectacles vivants ou des manifestations culturelles. Je pense notamment au Festival du Livre d'Aix-en-Provence, ou plus proche de nous, une affiche pour la promotion d'Arc en Rêve, Centre d'architecture, à Bordeaux. Les habitués des librairies vous connaissent, si ce n'est pas vous, votre travail et vos collaborations pour différents éditeurs, La Martinière, Robert Laffont, Le Serpent à plumes ou Feuilleton. Votre œuvre graphique se caractérise par une perpétuelle recherche autour de la typographie. Vous avez écrit « Toutes mes créations graphiques sont imaginées à partir de la lettre ». Nous recevons aujourd'hui le graphiste, mais également l'écrivain, avec Chronique graphique aux éditions Tind, paru en fin d'année dernière. C'est un ouvrage qui interpelle, comme vos affiches, par sa composition. Il est composé de 10 courts chapitres qui alternent récits autobiographiques et récits introspectifs. Vous évoquez vos origines familiales, votre vie scolaire, les rencontres déterminantes, votre activité artistique et professionnelle. Récits autobiographiques et introspectifs, je disais, mais également récits de fiction, proches de la nouvelle, où vous disparaissez, où le narrateur, sur des modes narratifs changeants et originaux, décrit la variété de la condition humaine dans l'univers professionnel du graphisme. Chronique parfois tragique, chronique souvent comique, teintée d'humour noir. Donc nous parlerons dans un premier temps de cet ouvrage, et ensuite un peu plus de votre métier, de la conception de votre travail. Donc, pour commencer, je voudrais savoir le contexte d'écriture des chroniques graphiques. Est-ce que c'est un projet mûrement réfléchi ou le fruit d'un hasard ?
Ben, c'est le fruit d'une rencontre avec trois jeunes éditeurs qui ont créé cette revue qui s'appelle Tind. Et ils sont venus voir l'exposition Typorama au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Ils m'ont interviewé. Lors de l'interview, nous avons discuté des différents domaines qui les concernent, à savoir, bien sûr, le graphisme, la bande dessinée, par ailleurs, et la littérature. Autour de la littérature, on s'est rendu compte que nous avions beaucoup de choses à échanger. Eux, étant pétris d'écriture et de littérature, et moi, étant un lecteur assez assidu, avec toujours l'envie d'écrire, ayant essayé plusieurs fois de d'écrire, mais je n'ai jamais trouvé l'interlocuteur pour pouvoir me lancer dans la publication d'un texte. Et eux m'ont mis au défi de publier quelque chose, une chronique, une histoire sur mon métier. Pourquoi pas ? Alors j'en ai écrit une qui leur a beaucoup plu, et puis une deuxième, une troisième, et au bout de la troisième, ils m'ont dit « Mais alors, ça, là, ça vaudrait la peine de faire un recueil. » Et parce que je me suis senti en confiance avec des gens qui pouvaient, d'une part, comprendre la profession qui est la mienne, et puis par ailleurs, qui m'encourageaient à prendre la plume, et écrire, eh bien, le processus s'est mis en route et l'une après l'autre, j'ai écrit ces chroniques en essayant d'alterner effectivement entre la mémoire de rencontres multiples au cours de ma carrière, donc la réalité, la représentation de la réalité, la fiction, et puis de trouver des situations qui soient effectivement cocasses, quoi.
Donc c'est à la fois le fruit du hasard des rencontres.
C'est toujours le fruit de hasard et des rencontres. Je ne crois pas à ce qui est écrit au préalable. Au contraire, il faut se laisser surprendre. Et c'est aussi une des chances que de faire du graphisme. C'est parce que au vrai, on est toujours, à un moment ou à un autre, entraîné dans des domaines que l'on ne connaît pas et dont nous avons la mission, en tant que graphiste, de communiquer. Alors, on apprend en permanence. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels on est dans un apprentissage permanent. Le graphisme, c'est ça, puisque c'est l'art de la communication visuelle. On ne peut pas communiquer quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, et on ne peut pas tout connaître. Donc, la première étape d'un travail, c'est d'apprendre. Déjà, d'absorber les informations que le client va vous demander après de communiquer. Puis après, une fois qu'on a absorbé, qu'on s'est renseigné, qu'on s'est enrichi du domaine dont il est question, après, il faut, je crois, désobéir peut-être aux attentes du client pour trouver sa propre voie transposer leurs attentes dans une image, qu'elle soit représentative ou non, ou abstraite. Mais donc, le hasard est toujours là. Il n'y a rien d'écrit au préalable, en tous les cas.
Et votre rapport à l'écriture, est-ce que l'écriture est quelque chose de très présent chez vous depuis votre enfance? Vous écrivez, ou est-ce que vous l'avez écrit simplement là?
Non, j'ai toujours écrit. Ouais. J'ai toujours écrit, mais jamais de façon aussi sérieuse. Ou alors, quand j'ai essayé, c'était très mauvais. Okay. Donc, ça n'a jamais abouti. Et ce qui m'a fait plaisir dans ce livre, même si ça paraît très fluide quand on le lit, c'est le résultat de beaucoup d'écriture et de réécriture. Je suis passé par plusieurs étapes pour arriver à garder l'essentiel, en fait, en supprimant énormément de passages entiers ou de phrases ou de mots qui me paraissaient superflus, pour essayer de garder quelque chose qui soit très concentré, parce que le style de la nouvelle, c'est comme dessiner un logotype. Il faut garder que ce qui est nécessaire. Il faut supprimer tout ce qui apparaît comme décoratif ou encombrant. Donc j'aime bien être dans la réduction plutôt que dans l'expansion. Voilà.
Le rapport à l'écrit implique le rapport à la lecture. Est-ce que vous avez été influencé par des écrivains dans votre style, ou est-ce que vous lisez beaucoup?
Je lis beaucoup. Et évidemment, il y a de nombreux écrivains qui m'ont marqué à différentes périodes de ma vie. C'est difficile comme ça d'emblée. Ou alors des livres.
Vous pouvez les citer, non? Vous avez
des... Oui. Des livres qui m'ont marqué et que je garde encore très présents, qui sont des classiques. Je dirais Les mots de Jean-Paul Sartre, Enfance de Nathalie Sarraute, pour parler de livres qui sont des références du XXe siècle. J'ai beaucoup aimé aussi lire Le journal de Kafka. Je trouvais que ça révélait justement l'envers peut-être de l'écrivain, qu'on arrivait à découvrir l'individu qu'il était. Et puis, j'ai beaucoup aimé lire Flaubert à un moment. J'aime toujours le relire. Les nouvelles de Maupassant m'ont beaucoup plu pour la littérature française. Mais il y a d'autres livres ou d'autres écrivains. J'ai énormément aimé lire les romans de Michel Tournier aussi, même s'ils sont des romans assez volumineux. Mais il a écrit des nouvelles qui sont superbes, Le vent paraclet, etc., entre autres. Et donc... différents écrivains, mais là j'ai cité beaucoup d'écrivains français, mais il y a des écrivains étrangers qui dernièrement, il y a un livre que j'ai aimé de Mario Vargas Llosa, Le paradis est un peu plus loin, voilà, des livres qui m'ont marqué. C'est pas forcément l'œuvre d'un auteur dans sa globalité, des fois ce sont juste des livres qui deviennent des références. Qui me touche beaucoup. Il y a peut-être deux livres aussi qui m'ont marqué et envers lesquels j'aime bien revenir. C'est « Cent ans de solitude » de Garcia Marquez et « Triste tropique » de Paul Lévi-Strauss, parce que ça parle de l'ailleurs et de la mémoire et peut-être aussi de la différence.
Est-ce que votre travail de graphiste a influencé votre style d'écriture?
Certainement, parce que dans la façon dont moi je travaille le graphisme, c'est la volonté d'être très concis et de ne pas forcément ajouter ce qui est encombrant. Donc, d'avoir une composition graphique qui soit juste, qui soit équilibrée. Dans l'écriture, j'ai souhaité que ce soit pareil, qu'il n'y ait pas de gras. Mmh. Vous voyez ? Donc, de supprimer un certain nombre de mots, ou de trouver ceux qui soient vraiment les plus appropriés. J'ai beaucoup soigné le style. Je tenais à ce que ce soit extrêmement travaillé. Parce que aussi, écrire, c'est réveiller les mots. Soudain, on va à la recherche d'un certain nombre de mots, de vocables. On enrichit son vocabulaire en écrivant.
Et comment s'est définie la forme de l'ouvrage ? Parce qu'il y a quatre premières chroniques. Déjà, pourquoi ce terme chronique ? Il y a quatre premières chroniques qui sont autobiographiques, quatre suivantes qui sont des nouvelles, et deux dernières qui sont plutôt des témoignages de votre activité professionnelle. Oui. Comment s'est définie la forme ? C'est un travail avec les éditeurs ?
Alors, chronique, c'est l'éditeur qui m'a demandé d'écrire des chroniques. Au début, il souhaitait que ce soit... la description de mes expériences professionnelles, ce qui est vrai et pas vrai, mais il est certain que les quatre premières ont une dimension autobiographique totale, parce que je tenais aussi à ce qu'il y ait une trace de comment on devient graphiste, ou alors tous les cas à défaut simplement du graphisme, mais comment on s'engage dans l'art, dans la création. C'est pas, moi je crois pas justement au don, à quelque chose qui soit inné, mais au contraire, je pense que ça se façonne au fil des situations, des rencontres, des joies, des souffrances. Et donc ce qui peut paraître ordinaire, finalement, ne l'est pas. En fait, ce qui est en apparence ordinaire n'est pas commun. Donc, il y a des petits détails comme ça, saillants de la vie, qui peuvent enfler en soi-même et puis donner naissance à un véritable engagement dans la création. Je pense que choisir de créer, d'être artiste, quelle que soit la forme d'expression artistique qui s'impose à nous, ou alors qu'on attrape au vol, ou alors sur lequel on peut butiner, parce que on a souvent tendance à croire qu'on ne peut faire qu'une seule chose. Or, il y a des créateurs qui s'exercent dans plusieurs domaines, et on parlait d'auteurs. Voilà, Henri Michaud a été un formidable auteur, autant qu'un plasticien merveilleux. Et avec en jouant justement sur vraiment l'écriture en tant que travail d'écrivain et écriture en tant que plasticien, d'utiliser la lettre ou la calligraphie dans un travail purement plastique.
On va rentrer un peu dans le livre. La première chronique s'intitule S'afficher. C'est un récit très condensé et mouvant qui raconte comment vous avez trouvé votre voie. Vous commencez par raconter votre rapport à l'école et un certain désir d'effacement. Vous évoquez l'importance de votre prof de français et puis très rapidement, vous détaillez votre plaisir à observer le minutieux travail d'un chef d'atelier dans une imprimerie dans l'attente de l'impression de votre travail. Puis vous disparaissez et laissez place à un jeu qui n'est plus Philippe Appelois, mais l'affiche, s'exprimant et décrivant ce qu'elle est. Pourquoi avoir construit cette chronique de cette façon où d'abord vous faites un récit très... très bref mais très fort de votre enfance et de votre travail de graphiste, et ensuite l'affiche qui parle.
L'enfance, c'était moi, et je savais que j'étais différent sans comprendre pourquoi, ni rien. J'étais dans un contexte, j'ai grandi dans un contexte où j'avais du mal à trouver ma place. Grâce à l'école et à mes professeurs, j'étais orienté pour aller entre autres au lycée à Paris. J'ai grandi en banlieue et je ne trouvais pas dans ces banlieues, à part dans les cours de dessin municipaux que j'ai suivis à Vitry, entre autres, un univers de très, en tous les cas, poétique. Mais sinon, c'était assez brutal comme environnement. Donc, par mon professeur de français, j'ai pu accéder à un lycée parisien où il y avait en tous les cas une plus grande facilité et reconnaissance d'une certaine culture savante, j'ai envie de dire. Et ça m'a propulsé. Mais justement, entre cette différence que je n'arrivais pas, que je vivais difficilement parce que je ne trouvais pas ma place, et puis être affiche, ou attendre qu'à faire de l'affiche, des affiches, être une affiche en tous les cas, c'est justement s'exposer, c'est se montrer, parce qu'une affiche, c'est faire du bruit visuellement dans un contexte urbain. Une affiche qui marche, c'est une affiche qui se remarque, donc elle est bruyante, elle est visible. Et c'était aussi très curieusement le contraire de ce que moi j'étais. Enfant, où j'étais plutôt effacé, où je voulais presque ne pas être présent parce que j'étais embarrassé de toutes ces différences. Mais justement, ça m'a donné peut-être une certaine force, indéniablement, parce que je voyais que je pouvais trouver ma voie pour être non seulement libre de m'exprimer, mais aussi être compris. Et donc après, l'affiche dans cette chronique prend la parole parce que je trouvais intéressant aussi de la personnifier, qu'elle devienne presque un personnage. Une affiche, c'est une image très éphémère et qui apparaît, qui disparaît et qui peut réapparaître après, parce que les affiches ont des fois des vies multiples. Il y a des affiches qui disparaissent très 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 vite. La durée de vie d'une affiche est rapide, ça reste rapide, ça reste rarement plus qu'une semaine, deux semaines sur les murs. Et puis certaines affiches s'inscrivent dans la mémoire visuelle commune et redeviennent après des éléments de collection ou alors d'exposition et sont regardées, observées comme de véritables créations. Certaines d'entre elles le sont réellement, pas toutes forcément, mais certaines sont des véritables chefs-d'œuvre.
Pour en revenir à votre enfance, quels ont été les premiers signes d'intérêt pour les arts graphiques ?
Il n'y en a eu aucun.
Ah oui.
Réellement, c'est-à-dire c'était un accident de parcours à l'école. Moi, je ne voulais pas du tout faire du graphisme, je n'ai jamais voulu faire ça. Je ne savais même pas que ça existait.
Vous parlez des cartes quand même, des cartes... Des cartes
Les cartes de faire des... Oui, c'est vrai que on devait à l'école... Ça se fait plus du tout maintenant, mais en géographie, donc on devait faire des cartes avec les fleuves, les montagnes indiquées, les capitales, les pays, etc. Et moi, je les faisais à la gouache, au pinceau, enfin, j'en faisais des peintures, quoi. Je m'en suis rendu compte évidemment après.
Vous aviez une activité quand même,
J'ai toujours, en tous les cas, dessinais, peint et je faisais de la linogravure, de la sérigraphie. Depuis tout jeune.
Et dans votre famille, il y avait un terreau artistique, non ?
Non,
pas du tout.
J'ai eu un grand-père qui était ébéniste, qui était un artisan merveilleux du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Mais non, il n'y avait pas de terreau autour du monde de l'art. En même temps, je n'ai pas été freiné, mais j'ai vraiment cherché tout seul. Mais... ce qui m'intéressait. En même temps, il y a des souvenirs comme ça très très frappants. Je me souviens que j'avais 10 ans quand Picasso est mort, et je me souviens très très bien qu'on en avait parlé à l'école, et on n'avait pas de livre vraiment d'art à la maison, et j'ai demandé à mes parents de m'acheter le Paris Match qui montrait Picasso qui venait de mourir, et ça m'a énormément impressionné, la disparition de Picasso, parce que je voyais quelqu'un qui était passé par plusieurs périodes d'art. Ça, j'avais énormément aimé cette période bleue, la période rose, la période cubiste, et puis tout ce qui s'était, tout ce qui a suivi après dans sa vie. C'était un homme à multifacettes. C'était merveilleux. En même temps, peintre, sculpteur, graveur. Ça a été des références. Je me souviens aussi d'avoir découvert la peinture, très tôt la peinture, en allant au Louvre ou en regardant des ouvrages comme ça. Donc il y a eu Corot, Ingres, des peintres qui ont été très marquants.
Votre vie a été ponctuée de rencontres déterminantes. Une chronique est intitulée « Jacques London, imprimeur Elle relate votre rencontre avec James London et sa famille. C'est une rencontre importante professionnellement, mais également déterminante dans le rôle qu'elle a eu dans la redécouverte de vos propres racines culturelles. Est-ce que vous pouvez déjà parler de Jacques London en tant qu'imprimeur et votre rapport professionnel à ce...
Alors, Jacques London était imprimeur à Paris, rue de la Grange-Batelière, c'est-à-dire dans le quartier où il y avait tous les imprimeurs autrefois, et le monde de la presse, autour de ce qu'on appelait le quartier de Rouault, qui était entre les antiquaires et bien pas loin, il y avait le Figaro, entre autres, et d'autres journaux. Le Monde n'était pas loin aussi, Boulevard des Italiens, etc. Donc il y avait tout un secteur de l'imprimerie, et Jacques London avait orienté en tous les cas son imprimerie pour accompagner les grandes institutions culturelles françaises, et notamment depuis la création du Centre Georges Pompidou. Il avait imprimé tous les travaux de Jean Widmer. Donc il était une référence, son nom circulait dans tout le milieu institutionnel à Paris. Et quand j'ai commencé ma carrière au musée d'Orsay, eh bien, c'était un nom qui circulait. On disait, allez voir l'imprimerie Jacques London, confiez-lui votre travail, il va imprimer telle et telle chose, tel document, telle affiche, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait, en tous les cas, qui bénéficiait d'une réputation de qualité. Après, j'ai découvert qu'il avait eu une activité d'imprimeur avant, c'était en imprimant les travaux des surréalistes, mais aussi de beaucoup d'artistes et d'écrivains, et de monde aussi du spectacle, comme entre autres Yves Montand. Il est bon, mais pas seulement, il avait travaillé aussi avec les artistes de Montparnasse avant la guerre, etc. Et de fil en aiguille, et surtout, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui avait des origines des pays de l'Est, comme mes grands-parents, et qu'il était, lui, russe. Mes grands-parents venaient de Pologne. Et en fait, le jour où je me suis osé lui demander quelles étaient ses origines, et c'est ce que je raconte dans cette nouvelle, il a levé, il a retroussé la manche de sa chemise, et il y avait son numéro d'immatricule d'ancien déporté tatoué sur son avant-bras. Alors évidemment, c'était bouleversant pour moi, parce que c'était le monde aussi de mes grands-parents. Donc je n'imaginais pas qu'à un moment, ce que j'avais connu dans mon enfance, qui était le monde peut-être du non-dit, en tous les cas de quelque chose qui n'était pas forcément facile à partager avec les gens de l'école et mes camarades, hors du circuit familial, du circuit amical, eh bien, c'était en tous les cas ce qui se dépassait pendant la guerre, la survie pendant la guerre, quelle qu'elle soit, que ce soit bien sûr dans le pire des cas la déportation, mais aussi être caché, et donc de survivre comme ça à l'antisémitisme et au pire de ce qui est de ces années-là, à la barbarie. Et j'étais extrêmement bouleversé par cette rencontre de Jacques London, surtout quand il m'a révélé effectivement toute son histoire. Et je pense qu'il y a eu cette entente comme ça, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait me transmettre un certain nombre de choses, peut-être qu'il n'avait pas dit à tout le monde. Et moi, j'absorbais ça, parce qu'évidemment, d'une part, ça m'intéressait. Et par ailleurs, peut-être ça me donnait aussi une certaine force, en me disant que je m'inscrivais au fond dans une certaine filiation de la mémoire, même si j'ai évidemment, vu mon âge, je n'ai absolument pas vécu ces années-là, mais elles me sont familières.
Il y a une autre rencontre également qui s'est faite avant celle de Jacques London, c'est Roger Druet.
Alors Roger Druet, qui est un calligraphe merveilleux, que je revois toujours aujourd'hui avec un bonheur égal à celle d'autrefois, puisqu'il a été mon enseignant. C'est lui qui m'a mis sur les voies de la typographie, et je l'ai eu comme professeur aux arts appliqués, pardon. Et il enseignait ce qu'on appelait l'expression visuelle. À l'époque, d'ailleurs, je suis devenu graphiste quand je dis par accident, c'est réel. C'est-à-dire que avant d'entrer aux arts appliqués, il fallait choisir, avant même de passer le concours, la section qu'on souhaitait, sur lequel on souhaitait être. Alors, il y avait textile, architecture en intérieur, stylisme, expression visuelle. Les autres ne m'intéressaient pas. Expression visuelle, je sais pas, ça doit être comme l'expression corporelle ou quelque chose du genre. Et puis en fait, c'était du graphisme, ce que je ne savais pas. Mais j'ai pénétré dans ce monde du graphisme par la calligraphie. Roger Doré étant calligraphe, il nous apprenait à dessiner les lettres. Et ça m'a fasciné. C'est lui qui m'a envoyé, entre autres, aux Pays-Bas. Mmh. Donc, j'ai beaucoup appris de lui. Il avait écrit un livre merveilleux qui s'appelait « La civilisation de l'écriture » avec une préface de Roland Barthes. C'était édité chez, je ne me souviens plus, « Dessin Tolra ou Skira », quelque chose comme ça. Et ça racontait l'histoire de différents alphabets, mais entre autres, bien sûr, de l'alphabet latin et de tous les styles de caractères depuis le début, ce qu'il appelait la caroline, etc., et après la gothique, et pour faire vraiment bref. Mais enfin, c'était assez passionnant. C'est-à-dire, en même temps qu'on apprenait à dessiner les lettres, à l'époque, tout se faisait à la main, il n'y avait pas d'ordinateur, à les dessiner, à les écrire, on apprenait aussi l'histoire.
D'ailleurs, en 88, vous allez à Los Angeles pour travailler avec April Grayman. Et là, on est dans un autre monde. C'est vraiment l'avant-garde du numérique, une des premières à travailler sur les Macintosh. Comment vous avez fait ce lien
Je ne savais pas qu'elle travaillait sur ordinateur. Ah, oui. C'est-à-dire que son travail, je l'ai découvert lors d'un stage aux Pays-Bas, dans un livre tout à fait par hasard. Et je m'étais rendu compte qu'elle avait travaillé en Suisse, elle avait fait sa formation en Suisse. Et j'aimais beaucoup, justement, cette capacité qu'elle avait à transgresser, j'allais dire, les règles très établies de la typographie suisse parfaite. Il y avait une véritable liberté artistique, créative, colorée dans son travail. Donc, j'ai voulu travailler avec elle. J'ai réussi à obtenir une bourse qui me permette de passer un an à Los Angeles dans son atelier. Et quand j'y suis arrivé en fin 87, début 88, eh bien, elle avait déjà un petit Macintosh sur sa table, ses assistants également. Et je me suis dit, mais moi, je ne suis pas venu là pour être une secrétaire et taper sur un clavier. Je dessine avec des rotrings, des équerres. Et pendant quelques mois, je suis resté un an à Los Angeles. Je me suis dit, mais jamais je vais toucher cette machine, c'est complètement ridicule, etc. Et puis, il m'a fallu justement cet apprentissage très progressif qui provoque une forme de prise de conscience, de me dire, mais là, je suis témoin de quelque chose, d'une véritable révolution dans notre façon de travailler. Cet outil avec lequel elle était déjà très à l'aise, eh bien, ça va peut-être être les outils de demain. C'est le cas. Mais je ne savais pas, en fait, qu'elle travaillait déjà sur l'ordinateur à cette époque. Ça a été une véritable surprise. Et je me suis donc initié à cette technique, avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs, parce que je n'étais pas familier avec le monde de la technique et des sciences. Je ne le suis toujours pas. Et j'étais déstabilisé par cet outil. Et en même temps, c'était aussi une véritable libération, parce qu'autrefois, utiliser la typographie était quand même très, très compliqué et très lourd, alors que là, c'était d'un seul coup beaucoup plus facile, même si à l'époque, les caractères qu'on pouvait utiliser sur ordinateur étaient de faible résolution et qu'on n'avait pas cette sophistication qui existe aujourd'hui, bien entendu. C'était très basique, mais justement, j'ai beaucoup appris des erreurs que j'ai faites en utilisant ces machines, et en même temps de me confronter à une plasticité qui soit pas aussi raffinée, mais peut-être justement un peu brute de décoffrage comme ça, ce qui était le cas des débuts de l'informatique.
Ça, c'est les apports de cette nouvelle technologie, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une sorte de perte aussi?
Oh, il y a toujours une perte et un gain.
Ouais.
Je crois que c'est pas seulement dans un sens, parce qu'on pense toujours que c'était mieux avant. Mmh. Moi, au contraire, non, je crois qu'il faut épouser son époque et vivre avec au présent. On essaye. Je crois qu'il faut vraiment vivre pleinement dans le présent, sans forcément toujours aussi se projeter dans l'avenir, si ça provoque des formes d'angoisse ou de paralysie. Et puis, sans être nostalgique aussi d'un passé qu'on pourrait imaginer plus merveilleux que l'actualité. J'aime bien, moi, être dans mon temps. Vous voyez, je me laisse bercer, j'ai envie de dire, ou alors bousculer par tout ce qui change. Quoi.
Pourtant, il y a un terme plutôt ancien que vous utilisez pour parler de votre studio, votre bureau. Vous dites atelier.
Ah, j'ai toujours dit atelier. Ouais. Je dis toujours atelier. Pourquoi ? Déjà parce que studio, je ne sais pas, studio, c'est un endroit aussi. On habite dans un studio, c'est une pièce, un studio, c'est un studio d'enregistrement. Bureau, moi, je n'ai pas de bureau, personnellement. Enfin, je bureau, l'univers du bureau... là aussi, j'y trouve pas ma place. L'atelier, j'aime bien parce que justement, c'est vraiment là où on bricole. Un atelier, c'est il y a tout, il y a de tout. Quoi. Et là où je travaille, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des ordinateurs, mais il y a encore des planches de travail sur lesquelles on peut faire du découpage, du collage. On imprime, on dessine. Voilà, c'est comme ça que je travaille et avec une équipe très réduite. Mais le fonctionnement, c'est celui vraiment d'un véritable atelier de création. Je ne dis pas agence non plus, parce qu'agence, ça signifie qu'il y aurait vraiment une équipe importante, comme on parle d'une agence d'architecture. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas.
D'ailleurs, quel est votre rapport à... Vous avez une équipe, vous n'êtes pas seul. Quel est votre rapport à, dans cet atelier
travail
en collectif?
Oui. C'est important, je crois, de travailler au milieu des autres. Enfin, pour moi, ça a toujours été important de me confronter à une équipe, à des gens qui sont à mes côtés et envers lesquels je transmets quelque chose. J'ai besoin de cet échange en permanence, déjà parce que j'hésite beaucoup. Alors, le dialogue est nécessaire, de discuter avec des gens qui m'accompagnent. Et que j'accompagne aussi autrement. Forcément, il y a une forme d'échange qui se... C'est pas seulement un sens unique. Et avec l'âge et avec l'expérience, la compétence donne un certain nombre de droits. Alors évidemment, c'est plus tout à fait la même chose qu'à mes débuts. Et en même temps, j'apprends aussi de cette jeunesse qui est autour de moi parce qu'ils ont... des méthodes aussi de réflexion qui m'intéressent et qui m'interpellent. Et j'ai l'impression aussi que je transmets un certain nombre de pas seulement de savoir-faire, mais de pensées. Je trouve que le graphisme, c'est pas seulement accumuler des connaissances et faire quelque chose, c'est aussi développer une pensée.
Quand on lit votre biographie, on a l'impression que vous avez créé votre agence très rapidement et donc vous avez été très vite indépendant. Les quatre nouvelles que vous avez écrites, elles parlent d'univers assez différents, le graphiste freelance, la grosse boîte, la grosse entreprise avec un service communication. Pourquoi avoir voulu faire quatre nouvelles
Déjà pour décrire un peu tout l'éventail de ce monde du graphisme qui va au graphiste freelance solitaire qui travaille sur le coin d'une table et qui essaye de survivre la plupart du temps parce que c'est pas un métier qui est forcément très reconnu en tant que tel. On nous prend souvent pour des femmes de ménage en disant tiens, voilà, allez, vous allez me ranger le texte, faire ci, faire ça, comme si les gens pouvaient faire eux-mêmes une conception graphique ou une mise en page et que faute de temps, ils le confieraient à quelqu'un. Non, c'est vraiment le résultat d'un véritable savoir. Mais pour beaucoup de graphistes, la réalité fait que c'est une forme de précarité dans le monde de la création, parce qu'on est un peu le parent pauvre, on ne sait pas trop ce qu'on fait, à quoi on sert, ce qu'on peut apporter, etc. Et puis, à côté de ça, il y a des très grandes agences avec toute une hiérarchie où on parle plus d'agence de publicité dans ces cas. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne dis pas atelier, parce que pour pas, l'agence, ça applique une certaine, justement, organisation proche de celle de la publicité et du marketing. Mais moi, ça ne me fait pas rêver, ça, la publicité et le marketing. Même si j'étais, ou je le suis encore, invité à intervenir dans ce monde-là, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui où je suis le plus à l'aise. Il y a un certain nombre de codes même qui me font plutôt frémir et ça ne provoque pas l'enthousiasme.
Les deux dernières chroniques, elles, évoquent votre pratique du graphisme, donc on va peut-être en parler un peu plus précisément. Ouais, vous comparez les signes typographiques à des corps musicaux. Vous êtes très amateur de danse et de musique. Comment cela vous inspire-t-il dans vos recherches ?
Ben déjà, parce que, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai jamais voulu faire du graphisme. Je voulais faire de la peinture. J'aimais beaucoup les arts du spectacle. Je les aime toujours autant. Parce que c'est un monde magique. Il n'y a rien de plus fascinant et stimulant que d'être dans un théâtre, d'être d'un seul coup plongé dans le noir et puis de voir sur scène un monde du merveilleux et de l'extraordinaire. Bon, j'ai eu la chance très, très jeune, à Vitry d'ailleurs, au théâtre Jean Villard, d'assister à un certain nombre de représentations des chorégraphes américains qui venaient là, de Louis Nicolaïs, bon, il y avait même la compagnie Martha Graham, Merce Cunningham. Alors, ça m'a toujours fasciné, ce monde du spectacle, peut-être aussi parce que c'est un monde du silence. Il y a la musique, mais en tous les cas, il n'y a pas de dialogue. C'est par le geste que ça se passe. Le mouvement, le déplacement dans l'espace, tout ça, ça m'a énormément nourri. Et c'est ce que j'ai, après, faute de faire de ces métiers-là qui me faisaient rêver, j'ai essayé de transposer cette passion de l'art de la scène dans la typographie, de lui insuffler du mouvement. Mais la musique, il y a de cela aussi dans la musique, bien sûr. Il y a le rythme.
Que vous retrouvez en typographie ?
Oui, parce que dans la typographie, on peut jouer avec ces mouvements, ce rythme, ces répétitions, ces pauses, l'amplitude, de jouer avec les contrastes.
On est vraiment dans une période toujours de bouleversement technologique. Quel conseil vous pourriez donner à un étudiant ou à une jeune personne qui s'engage dans le graphisme par rapport à ce continuel mouvement d'innovation ?
Moi, je pense que ce n'est pas l'outil qui fait la création. Hein. L'ordinateur, ça n'est qu'un crayon extrêmement sophistiqué. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois et je n'ai pas d'autre vision aujourd'hui de ce qu'est l'ordinateur. Je crois que tout part quand même du dessin et que ce n'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on peut faire des choses merveilleuses. De la même façon qu'un crayon, on peut faire des choses intéressantes et trois fois rien. Mais l'important dans l'apprentissage du graphisme, à mon avis, aujourd'hui, c'est de garder avant tout la dimension artistique et créative de cette profession et de ne pas justement être complètement dépendant de l'outil, parce que le problème de l'ordinateur, c'est déjà ça aplatit pratiquement tout, et puis par ailleurs, les logiciels, tout le monde utilise les mêmes de par le monde, donc une sorte d'uniformité qui s'installe. Et il faut être capable de l'utiliser sans pour autant en être complètement dépendant. Maintenant, c'est difficile aussi de faire sans, puisque tout passe par là aujourd'hui. Donc c'est une chance que d'arriver dans une époque où effectivement le monde du graphisme est en plein bouleversement, et en même temps ne pas oublier que le dessin est la base de tout, et qu'on peut simplement avec un papier, un crayon, développer une idée, puisque le graphisme c'est quand même la mise en place d'une idée et de la concrétiser visuellement. C'est ça le graphisme, c'est pas seulement de répondre à à une attente qui soit purement fonctionnelle. C'est aussi de développer du sens, sans forcément justement amener son propre jugement sur la question. C'est là où c'est difficile aussi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que il me semble que c'est pas avec des c'est pas le sujet qui compte. C'est pas parce qu'on va faire une affiche, par exemple, ou un logo pour une cause noble ou valable que le graphisme va être intéressant. Il y a des affiches merveilleuses pour vendre du bouillon cube ou des pâtes ou donc des choses qui ont à faire avec la réclame, qui sont du monde de la consommation, de la grande consommation ordinaire. Et puis il y a des images graphiques qui ont été faites pour des causes nobles, mais c'est pas le sujet qui guide le graphisme, certainement pas.
Il y a un sujet que vous n'abordez pas dans vos chroniques, c'est votre travail d'enseignant qui est ponctuel. Mais vous avez enseigné en France, aux États-Unis aussi.
Oui.
Quelle différence vous voyez entre, on pourrait dire, une tradition française, une tradition anglo-saxonne ?
Alors déjà, l'enseignement, c'est vrai que j'ai enseigné pendant 7 ans aux arts décoratifs à Paris et pendant pratiquement 5 ans à New York. Mais je ne pense pas que j'étais un bon pédagogue parce que je n'avais pas forcément la vocation à être professeur. Ça s'est venu, on me l'a proposé, en tous les cas à Paris. Et je l'ai accepté et j'en garde un formidable souvenir parce que j'ai beaucoup aimé être au contact des élèves. Maintenant, à New York, ça c'est moi qui ai choisi d'enseigner à New York parce que je voulais apprendre comment les artistes étaient formés aux États-Unis. Ça m'intéressait de savoir comment ça se passe. Donc c'est moi qui ai sollicité à être enseignant là-bas. Alors maintenant, c'est vrai que ce sont deux mondes différents. J'ai été frappé aux États-Unis, entre autres, de voir que à l'époque où j'enseignais, c'est-à-dire c'était fin des années 90, début des années 2000, et bien que les élèves que j'avais n'avaient pas les mêmes connaissances, les mêmes références que mes élèves français à Paris, et que pour eux, leurs références venaient du monde de la grande consommation, et c'était au fond les enfants du pop art. C'est là que je me suis rendu compte que le pop art était vraiment faisait partie totalement de la culture américaine, alors que mes élèves français à Paris, eh bien, était pétri de culture, avait un bagage que tu avais beaucoup lu, avait fréquenté les musées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de musée aux États-Unis, loin de là, et surtout à New York, il y a vraiment beaucoup à voir, et c'est inépuisable et permanent. Mais pour beaucoup des élèves que j'avais, par exemple, lorsqu'on parlait, je ne sais pas, de toutes sortes de choses, ça allait, dit comme ça, de ce que peut être par exemple une architecture gothique ou romane, pour eux ça ne leur dit rien du tout parce que c'est quand même assez rare, ou alors ce sont des copies ou ce sont des pièces transposées ou c'est des pièces de musée, mais ils n'ont pas la même expérience que par exemple de rentrer dans une église ou une cathédrale qui sont tellement accessibles pour nous et qui font partie de notre environnement quotidien. Pour eux, j'ai envie de dire, les cathédrales aux États-Unis c'est peut-être les supermarchés, voilà. Donc mais en même temps, il n'y a pas de hiérarchie dans l'inspiration, justement, artistique. Tout peut devenir source d'inspiration, y compris, justement, la grande consommation. Et ça, j'étais beaucoup surpris de cette liberté, peut-être, qu'ils avaient aux États-Unis, justement parce qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances que j'attendais de la part de jeunes artistes. Mais c'était merveilleux. Moi, j'étais totalement surpris dans le bon sens du terme. Et en même temps, à Paris, j'ai eu quand même cette chance d'être aux arts décoratifs. Mais comme je dis, je n'étais pas très bon pédagogue parce que je pense que pour enseigner, il faut quand même mettre au point tout un cursus scolaire. Surtout, aujourd'hui, on ne peut pas guider des jeunes artistes vers simplement la technologie, par exemple. Donc, ça demande à avoir une véritable mise en place d'un enseignement sur la pensée artistique, la pensée graphique, du design, etc., avec l'apport de l'histoire du design. Mais pas seulement, je crois que c'est aussi une ouverture permanente sur le monde, sans oublier la pratique permanente du dessin, de la même façon qu'un musicien fait ses gammes, de la même façon qu'un danseur va faire de la barre en cours, etc. Eh bien, les graphistes, les architectes, les plasticiens, les peintures doivent s'exercer sans arrêt, me semble-t-il, à la pratique du dessin.
On va rester sur cette leçon de graphisme. Merci, Philippe Appelois. Voilà.